Bienvenue sur Woolly Mood, le média qui s'intéresse à la personne. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Maëlle. Woolly Mood. Bonjour Maëlle.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui?
Je vais plutôt bien. J'ai une bonne pêche. J'avoue, je commence à être nerveux, en fait, parce que je ne m'attendais pas à ça.
Alors, j'aimerais savoir... en fait, on s'est rencontrés lors de l'anniversaire de mon associé Yann.
T'es sûr que ce n'était pas avant?
C'est possible.
À l'association?
Ah oui, t'étais aussi là à l'association, c'est juste.
Tu m'as déjà oublié?
Oh, je m'excuse alors. C'est vrai que des fois, dans les événements...
C'est pas grave. Tu as beaucoup de responsabilités, c'est normal.
Oh, c'est gentil, merci, mais j'en ai pas tant que ça.
Ah, c'est pas l'impression que tu donnes, en tout cas.
Oh, merci beaucoup. Je prends. Alors, du coup, on s'est croisés deux fois.
Deux fois.
Et ce qui m'a marqué le plus, c'est la deuxième fois. Parce que j'étais plus apte et dans une ambiance peut-être plus festive.
Et puis, t'as mangé mes gâteaux aussi.
Exactement. Alors, vu que j'adore manger, et c'est une de mes passions préférées, est-ce que tu peux partager ta passion?
Avec plaisir. J'ai commencé très tôt, en fait. Alors, ma sœur a commencé en premier. En fait, j'ai commencé parce que ma mère, elle faisait des gâteaux, mais seulement quand les invités étaient là ou quand il y avait mon anniversaire. Or, mon anniversaire est très collé avec le Noël, donc je n'avais pas vraiment beaucoup de gâteaux. Au bout d'un moment, en fait, ça m'embêtait. Je me suis dit, j'ai envie de manger un peu plus de pâtisserie. Et du coup, j'ai commencé à me forcer à préparer. Au début, mes pâtisseries étaient plus horribles que ma sœur. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à améliorer. Pendant des années, j'ai amélioré mes techniques, j'ai commencé à apprendre même de la cuisine moléculaire. Je sais en faire, mais ça fait tellement longtemps que le seul truc que je sais encore faire est, pour que tu saches, les bubble tea, ça fait partie de la cuisine moléculaire.
Parce
que les billes de gélatine, à la base, ça fait partie de la cuisine moléculaire. D'ailleurs, c'est des Français qui ont créé ça, il y a environ 10 ans. Et justement, à l'époque, c'était pas très connu. Ils utilisaient principalement ça pour mettre des jus à l'intérieur, comme ils le font maintenant, ou encore de l'alcool à l'intérieur. Parce qu'en fait, cette gélatine, elle peut durer dans le four jusqu'à, je crois, 250 degrés, ou un truc du genre. Enfin, tu peux cuire ça dans un gâteau. Par exemple, tu peux fourrer le truc avec les billes de gélatine de jus. Vas-y, désolé, je t'ai coupé.
Pas de soucis, c'est moi qui te coupe. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la cuisine moléculaire, justement? Pourquoi cette association? C'est plus facile? C'est quoi l'idée derrière?
Non, c'est hyper compliqué. En fait, c'est vraiment hyper compliqué. En gros, si tu n'as pas les connaissances pour, même des connaissances basiques. Les connaissances basiques, tout le monde peut en avoir. Ça, ce n'est pas un souci. Mais ceux qui ont appris ça, ils ont fait des cours de chimie. Donc, du coup, moi, je n'en ai pas. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai dû apprendre sur le tas. Et en soi, c'est vraiment la connaissance, en fait. La pâtisserie, c'est un univers extrêmement étendu.
Oui.
On peut faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on imagine. Il suffit d'avoir la base. Il suffit d'avoir de la passion. Et il suffit aussi d'être curieux.
J'aime bien ce « il suffit » et je vais prendre le temps de décortiquer. Qu'est-ce que ça veut dire « il suffit » pour toi?
Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens que dès le premier défaut, dès la première difficulté, ils laissent tomber. Et il ne faut pas laisser tomber. Moi, j'ai raté, je peux pas dire sur moi, en fait, parce que j'ai raté très peu de pâtisseries. Mais quand j'ai raté, ça m'a vraiment frustré, parce que j'aime pas le gaspillage, en fait.
C'est quoi cette énergie de frustration?
Comment
tu la gères?
Alors, sur le moment, je pète un plomb, parce que je déteste gaspiller la nourriture. Je déteste me dire que je vais faire une nourriture qui va faire que les gens y détestent. Et du coup, je mange ma nourriture ratée parce que pour moi, c'est ma manière de sacrifier. J'ai fait des choses qui sont pas bien et donc je mange ce que j'ai raté pour pouvoir me dire la prochaine fois, je ferai mieux. Et cette énergie-là, en fait, elle va être transformée plus tard et ça va me motiver à réussir encore plus, à faire des choses encore plus parfaites, à créer de nouvelles pâtisseries.
Et cette quête de perfection, ça t'a amené où?
Dans une grosse frustration. Je ne sais pas comment formuler autrement. Le problème, quand on est trop dans la perfection, c'est qu'on veut toujours modifier quelque chose. Donc, il faut s'arrêter à un moment donné parce qu'on va modifier le truc de trop à un moment donné. et on va gâcher ce qu'on a fait.
Comment tu choisis ce moment clé où tu sais que c'est le moment de s'arrêter?
Par hasard. Si je vais être honnête, c'est par hasard parce que tout simplement, à un moment donné, tu te dis, je suis trop en train de modifier. Donc, je ne sais jamais quand est-ce que c'est, mais je me dis, le goût est déjà parfait. Il faut que tu arrêtes de vouloir rajouter des trucs. Et au bout d'un moment, ben, je choisis le moment et j'arrête.
C'est comme s'il y avait des voix parallèles dans ta tête qui te parlaient en disant, eh, oh là, c'est peut-être trop.
Voilà, il y a une voix qui dit, ouais, c'est peut-être trop, tu as trop rajouté. Il y en a une autre qui dit, tu pourrais peut-être, je sais pas, rajouter un petit truc en plus. Mm. Puis il y en a une autre qui fait, arrête-toi là, s'il te plaît. Et du coup, je m'arrête parce que ça m'a déjà arrivé d'aller trop loin et de rater parce que, par exemple, j'ai fait trop de cuisson ou pas assez.
Oui, juste.
Et du coup, tout est pour moi millimétré. Alors après, j'ai aussi des techniques de paresseux, comme par exemple, une fois, j'avais pas envie de... Parce que, par exemple, le lait condensé.
Oui.
Normalement, quand on le transforme avec de la poudre de cacao, etc., on peut faire une espèce de caramel, on va dire, de lait condensé. Et en fait, quand tu le fais, ça prend 45 minutes sur la casserole et il faut rester là à battre tout le temps pour pas que ça colle et que ça crame. Et du coup, moi, j'étais paresseux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le batteur électrique, j'ai mis dessus et j'ai mis une chaise et puis je suis resté comme ça pendant 45 minutes. Et ça aide parce que ça a rendu encore la crème encore plus crémeuse.
Mm-hmm.
J'ai rajouté un peu de lait et puis en fait, ça fait le truc.
Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, cette passion pour la pâtisserie?
Du bonheur. Énormément de bonheur. Déjà pour moi-même.
Définir le mot bonheur pour toi?
Un sentiment de plénitude. Un sentiment de... Vous savez, quand on est amoureux, c'est un petit peu moins fort, mais ça reste fort quand même. Et c'est un peu que comme tu parles, tu as des cucuis derrière. Je sais pas comment te formuler ça autrement. Mais ça me réchauffe le cœur, en fait. Parce que quand je réussis quelque chose, en fait, c'est pas un échec, c'est une réussite. Donc même le petit truc minuscule... ça reste une réussite. Et quand je fais ça pour quelqu'un et que la personne aime, c'est mon cadeau supplémentaire.
Tu offres quelque chose et tu reçois en retour finalement cette reconnaissance. C'est quoi? Quelle émotion tu captures des gens qui... T'as des images, je suppose.
Des sourires.
Ouais.
Par exemple, quand ton gosse il est venu et qu'il a mangé, je sais plus ce que c'était, je l'ai vu le sourire et il a fait j'en veux plus et tout. Entendre j'en veux plus, ça veut dire c'est très bon. C'est très bon, j'en veux plus. Il y a des pâtisseries que je fais qui sont très caloriques. Et pourtant, les gens, ils s'en foutent de la calorie, ils veulent plus.
Mm-hmm.
Quand j'ai fait le moelleux au chocolat et qu'il y avait les autres gosses de la soirée de Yann qui a dit « Ouais, j'ai caché le fondant au chocolat derrière le micro-ondes pour que personne ne l'aille. » Moi, j'ai trouvé ça trop génial. Je veux dire, pour moi, c'est un cadeau énorme. Donc, c'est le sourire des gens, c'est les mots qui sortent.
Quels sont les mots qui t'ont le plus marqué?
Alors, le genre veut plus, ça c'est sûr.
Mm-hmm.
Ou encore, c'est trop bon. Ça c'est une phrase qui revient assez souvent quand je mets vraiment du cœur. Et le fait d'avoir c'est trop bon, ça me fait du bien, en fait.
Et comment tu peux prendre... qu'est-ce que tu prends personnellement?
Comment ça?
Pour toi, ce genre de commentaire, ça touche ton cœur? Ça touche quelle zone?
Ça touche le cœur, ça irradie comme ça. Ça remonte au cerveau. Et ça fait une espèce d'effet dopamine. Tu vois, quand tu te sens à l'aise, tu fais une activité que tu aimes,
oui.
Ça fait ça. Et puis ça me soulage. Parce que,
c'est magnifique.
Ouais, ça, c'est quelque chose... C'est pour ça que j'adore la pâtisserie.
T'en as fait ton métier?
J'aurais voulu. Mais honnêtement, j'ai juste de la compétence. Je n'ai pas de CFC, je n'ai pas de diplôme. J'ai travaillé dans beaucoup d'endroits.
Mm-hmm.
J'ai essayé de faire un CFC, mais c'est dur à dire. Mais en fait, il y a une zone cachée que les gens ne disent pas. Parce qu'ils disent toujours, ouais, quand on a, même si on a 25 ans ou 30 ans, on peut toujours avoir un CFC. Alors, il y a certains qui réussissent. Hein, donc, ils ont eu beaucoup de chance. Mais moi, on m'a clairement dit, ah, t'as beau avoir les techniques pour. Je suis navré, mais t'as 25 ans, 26 ans. Tu peux pas, on va jamais te prendre. Et on préfère prendre un jeune de 13 ans. J'ai fait, mais c'est... Je veux dire, je suis motivé, je connais les techniques de nettoyage, d'hygiène,
oui.
Je connais les techniques de pâtisserie,
mm-hmm.
Je peux bosser des heures, je sais à quel point c'est dur comme métier. Et ah oui, mais je suis navré et tout, on préfère prendre plus jeune. Donc, j'ai malheureusement pas eu cette chance, mais c'est pas pour autant que je laisse tomber.
Est-ce qu'il faut un papier à l'heure actuelle, vraiment, hein, c'est une vraie question, un CFC pour pouvoir faire de la pâtisserie et la proposer sur le marché?
Alors, en soi, si tu veux travailler quelque part, il faut, sinon tu vas être payé horriblement. C'est comme si tu étais au noir. Mm-hmm. Et on va vraiment t'exploiter parce qu'il y a beaucoup, j'ai connu beaucoup de gens qui étaient exploités.
Si tu le fais pour toi?
Alors, c'est ça que je compte faire plus tard. Et Yann est au courant. Toi, je pense que je t'en ai parlé vite fait. Mais après, c'est pas pour tout de suite. Hein. L'idée, c'est d'avoir un investissement avec un petit truc de base mm-hmm. quand je vais déménager, donc d'ici normalement fin du mois. Et l'idée, c'est de créer une pâtisserie à Delémont, quoi. Sur un thème spécifique qui...
Où ça, t'as dit ?
À Delémont.
T'habites là-bas ?
Je vais habiter là-bas. C'est mon petit... En fait, je suis tombé amoureux de la ville. Et j'ai vu qu'en fait, j'aimerais faire un double coup parce que j'aimerais autant proposer quelque chose de nouveau.
Oui.
Autant j'aimerais qu'il y ait plus de découvertes de cette ville parce que les gens ne connaissent pas. Ils pensent que c'est un endroit paumé avec des vaches. Et pourtant, il y a quand même une manor, un holico... Il y a tous les McDonald's machin, les gens qui adorent ça, mais moi j'aime pas ça. Tu as quand même des supermarchés et des cinémas. Donc, je veux dire, c'est pas un endroit paumé.
Oui.
C'est même un endroit de passage.
J'ai traversé Delémont, justement. Et ouais, c'est vrai que je me suis dit, ça serait intéressant de visiter, de savoir pourquoi les gens s'installent là-bas. Et...
Déjà, c'est pas cher.
Oui, c'est vrai que les loyers dans le Jura.
Ah, celui-là, celui que j'ai vu, je suis tombé amoureux. Il est incroyable, cet appart. Mais...
Et donc, ce serait quoi le concept innovant?
Le concept innovant, alors, bon, je vais le dire parce que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va me voler le truc avant, j'espère
c'est,
pas.
C'est toi, c'est ton essence, donc même si le concept...
De toute façon, mes recettes, elles sont qu'à moi, donc ils peuvent à la limite prendre ce concept s'ils veulent. Mais c'est sur le thème du matcha.
Oui.
En fait, la pâtisserie que j'ai faite pour Yann,
oui,
pour son anniversaire...
c'est ce qui m'a le plus touché, qui m'a réchauffé, comme tu as dit.
C'est ça, en fait, ça m'a... Ce jour-là, j'ai eu tellement de bons retours que ça m'a remotivé à recommencer parce que j'avais mis de côté la pâtisserie. Et en fait, je me suis dit, le matcha, c'est quelque chose que j'adore déjà. Ouais. Les gens, ils adorent aussi. Et en fait, je peux faire plein de variantes. Mm-hmm. Là, par exemple, le tiramisu au matcha que je t'ai fait, que tu as goûté. Par exemple, je vais créer des recettes de natas, par exemple, à base de matcha. Mm-hmm. Ou encore, je sais pas moi, des cookies au matcha. J'ai une trentaine de recettes en cours et je suis en train de les tester tous les jours. Je les modifie. En fait, j'ai acheté un livre pour faire comme un livre de cuisine. Mm-hmm. Je fais toutes les modifications dessus et je me base aussi vis-à-vis du fond.
Alors, donc le matcha, ton concept innovant, et ce sera sous plusieurs formes, je suppose.
Voilà.
Et ce sera pour quand qu'on peut
alors,
goûter toutes ces merveilles?
Alors, pas pour tout de suite. L'idée, c'est que... J'ai un petit concept à côté que je vais utiliser comme tremplin. Mm-hmm. Ça sera une... Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un triporteur.
Oui.
Tu vois, les petites mobilettes pour les marchands de glace italiens. Ouais. Voilà. Donc, je vais acheter un triporteur. Je vais économiser un petit peu. Mm-hmm. Et je vais essayer de vendre en tant que marchand ambulant une pâtisserie spécifique. Pour le coup, je ne peux pas dire parce que sinon, il y a des gens qui vont tricher. Mais je vais vendre là-bas. Et cet argent-là, il va me servir à ouvrir ma pâtisserie.
Tu penses qu'il te faut combien de capital pour ouvrir? Est-ce que tu as déjà fait des recherches?
Je n'ai pas encore fait les recherches, mais je sais qu'il faut beaucoup de capital normalement. À l'époque, j'avais regardé pour Genève combien ça pourrait coûter.
Genève, c'est cher.
Il fallait que j'aille justement un investissement avec les sharks. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est en fait les gens qui ont de l'argent et qui peuvent ouvrir. Voilà. Et du coup, eux, à l'époque, je n'avais pas réussi parce qu'il y a eu... un problème au niveau du commerce en général. Enfin. Mais du coup, je ne sais pas encore le capital, mais c'est à voir. De toute façon, je dois me baser sur le petit avant de commencer avec le grand.
Bien sûr.
Il faut toujours penser petit avant de commencer au grand. Sinon, il y a tout qui
faut. C'est comme ça ta structure de pensée?
Parce
que tu as appris de ta vie finalement.
Oui. Alors, c'est comme ça que j'ai pensé parce que c'est vrai que quand on pense directement au grand, on va se mettre des barrières trop hautes. Puis après, quand on les atteint minimum pas, du coup, on laisse tomber. Il faut penser petit pour pouvoir penser grand après.
C'est comme ça que tu procèdes, comme je mets chaque ingrédient
voilà.
Après l'autre, dans l'ordre aussi.
Dans l'ordre, alors, c'est comme pour la pâte à crêpes. Il y a un ordre que j'arrive jamais à faire. Du coup, j'ai un peu de grumeaux et du coup, je dois laisser filtrer le truc. Mais j'arrive jamais à me rappeler quel ordre c'est. Si c'est la farine ou les œufs en premier, mais il y a toujours le lait en troisième.
Ok. Wow. Et quelles sont tes stratégies pour réussir à accomplir ces petits pas?
Rester fixé sur l'objectif, C'est ne pas le laisser tomber. Là, par exemple, je l'ai laissé en pause parce que je dois faire le déménagement et tout le reste.
Oui.
Mais dès que le déménagement, dès que les choses sont stables, je vais donc faire les étapes. Donc, c'est regarder avec la mairie, la commune, regarder les autorisations que j'ai besoin, continuer avec mes recettes, regarder le prix du marché, regarder combien je pourrais vendre les trucs, regarder aussi ce que les gens, ils aiment aussi.
L'analyse de marché, donc.
Voilà, l'analyse de marché en général. J'ai déjà fait des cours de ça. Donc,
oui. Si jamais, ben, j'ai mes parents qui ont fait ça toute leur vie, sur les marchés.
Alors, parce que...
Et moi, je sais faire des business plans et faire des demandes de fonds.
Alors, je veux bien regarder ça, voilà. Parce que... Mais je pense que ce que je vais faire, ça va être quelque chose de... Je sens, en fait. J'ai beaucoup d'instinct pour beaucoup de choses. Je me suis loupé pour beaucoup de choses parce que je n'ai pas voulu suivre mon instinct.
Oui.
Et là, maintenant, je sens, en fait, que ce truc risque de fonctionner. Parce
qu'il risque pas, il va fonctionner. Tu as une première cliente.
C'est une manière de le dire.
Que...
je suis 100% confiant sur ça.
Oui.
Donc, il n'y a pas seulement pour le matcha, il y a aussi pour le thème visuel de la pâtisserie.
Mm-hmm.
Parce que j'ai un thème visuel, c'est le steampunk. Je ne sais pas si tu connais.
Non, c'est quoi ?
Tu as déjà lu 20 000 lieues sur les mers ?
Non.
Jules Verne ?
Jules Verne, je connais, mais...
Voilà. Alors, Jules Verne, en fait, il s'est basé sur un futur de son époque à lui, basé sur... toutes les machines à vapeur.
Ah oui.
Donc en fait, il y a beaucoup de tuyauteries, de trucs en métal, en cuivre, etc.
Ah,
et ça va être le style de la pâtisserie.
C'est génial.
J'ai déjà le trois quarts des meubles en favoris sur Etsy. Et j'achèterai peu à peu. Et du coup, on va décorer le truc pour ça.
C'est incroyable.
J'ai déjà le vêtement pour moi. Parce que moi, j'ai déjà les vêtements. J'ai des vêtements totalement rouges en velours. Avec un chapeau melon rouge en velours et puis ma petite moustache.
T'as déjà des photos qu'on peut partager ?
Ouais, mais je suis un petit peu gros là sur la photo. Donc on va attendre que je prenne
un
peu de poids.
C'est pas l'idée justement de la pâtisserie.
Oui, mais l'idée, c'est pas non plus de donner envie aux gens de pas y aller parce qu'on a grossi. L'idée, c'est un peu de faire. Parce que sinon, c'est difficile.
Moi, je pense que l'idée de cette chaîne, c'est de l'authenticité. Et je pense que l'authenticité, peu importe la variation de poids physique ou autre, ça marche.
Je te montrerai alors une photo.
Avec grand plaisir. Je me réjouis de l'avoir d'ailleurs dans ce costume. Qui a l'air Père Noël un peu, comme tu
alors,
le racontes.
Ouais, alors, il est totalement rouge en fait. C'est vraiment j'ai un pantalon en velours rouge foncé. J'ai pas encore les chaussures.
C'est fait par toi-même ?
Alors, non, en fait, je suis allé acheter dans plusieurs magasins différents. Le plus cher, c'était le chapeau qui m'a littéralement fait mal. Il m'a coûté dans les 300 balles. Il est très cher. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois que j'arrête de le porter, je le mets dans sa boîte et je le nettoie et je le bloque pour qu'il n'y a pas de la poussière, quoi que ce soit, parce qu'il est là.
Si on parle de ton identité.
Mon identité.
Tu te définirais comment ?
C'est trop vague comme question.
Si tu dois identifier tes forces, ça serait quoi, tes valeurs et tes forces ?
Alors, mes valeurs, mes forces. Je suis quelqu'un qui se relève beaucoup. Alors, le truc de se relever beaucoup, c'est qu'on a une force intérieure qu'on n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Maintenant, le truc, c'est que si ça se répète trop et qu'on n'a pas récupéré en cours de route, ça devient une faiblesse.
Mm-hmm.
Parce qu'après, on n'est plus assez fort pour se relever. Et du coup, j'ai appris à avoir une nouvelle force à côté, c'est demander de l'aide.
Ah.
Et c'était quelque chose que j'avais beaucoup de mal avant, parce que j'avais peur que les gens profitent de ça. Et j'en ai eu.
On profiterait de ça. Enfin, quel était ce schéma de pensée qui te dit « Ok ».
C'est parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai essayé de demander de l'aide à l'époque,
oui.
Les gens me disaient « Ouais, mais je t'ai fait ça pour toi et tout ». Et puis moi, j'ai dit « Ouais, mais je pensais que tu le faisais de bon cœur, pas avec un retour ».
Est-ce que tu peux préciser « les gens » ? J'aime pas trop ces termes,
oui,
parce que du coup, chacun a ses gens.
Oui, alors, oui, c'est vrai. J'avais eu des amis. J'ai eu aussi de la famille, comme ça. J'ai eu... des copines, comme ça. Donc, et même des amis de ma mère. Et je crois que la chose la plus dure que j'ai pu entendre, c'est « Ah, mais je vous ai offert des jouets pour votre sœur et tout. Je vous ai offert ceci, je vous ai offert cela. » Et en fait, ça m'avait tellement fait un choc à l'époque que j'ai fait « Bah, tu peux tout reprendre.
Mm-hmm.
Je ne veux plus jamais demander de l'aide. Je ne veux plus jamais me sentir redevable envers quelqu'un. »
C'était à quelle époque ?
Je crois que j'avais 16 ans.
Adolescence.
Mm-hmm. Et du coup, à partir de là, j'ai quand même commencé à avoir peur de demander de l'aide.
Oui.
Parce que j'avais cette vision que tout le monde ou très peu de gens seraient dans un bon côté.
Mm-hmm.
J'avais plus de chances de tomber sur quelqu'un de mal intentionné que bien intentionné.
Ok.
Et
ça a changé quand ?
Alors déjà, ça a changé grâce à mon ex.
Mm-hmm.
J'ai vécu, enfin, je suis resté avec elle 7 ans. Et elle, elle a changé mon cœur avec le temps. Ça a été une personne qui m'a soigné, qui m'a guéri, et qui m'a permis aussi d'accepter de l'aide et accepter que les gens me payent en fait, des trucs parce que je n'acceptais même pas ça, en fait. Je déteste. Ça va? Tu pleures? J'ai vu touchant. Depuis tout à l'heure, donc du coup...
T'entendre en fait partager ce genre d'histoire, en fait, c'est révélateur de beaucoup de choses. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc je suis très heureuse. Des pleurs de toucher, d'être heureuse, de pouvoir...
J'ai tellement pas l'habitude de voir une fille qui pleure, ça.
Immortaliser ça, parce que c'est vrai qu'on remercie, je trouve, pas assez des fois nos ex qui font qui on est aujourd'hui. Donc, ouais, ça me touche que tu le fasses de cette manière-là et... À l'écran, en live. Et...
Mais je la remercierai jamais assez. Elle a... Malheureusement, ça s'est mal terminé, mais oui. On est toujours en bon terme, en fait. Mm-hmm. Et elle m'a beaucoup apporté pendant toutes ces années. J'ai fait aussi mon possible pour l'aider. Et oui, je la remercie. Je la remercie parce que mon état d'esprit actuel reflète l'aide qu'elle m'a apportée. Parce qu'elle m'a aidé quand j'étais vraiment dans le gouffre.
Oui.
Et en fait, elle a été là pour moi. Donc oui, je la remercie.
Et ça t'a fait évoluer.
Ça m'a fait évoluer. Toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie,
oui. C'est
des gens qui nous font évoluer d'une manière ou d'une autre. Même si c'est un final négatif, ça t'apprend à te connaître toi-même, ça t'apprend à gérer la vie active, ça t'apprend beaucoup de choses.
Mm-hmm.
Toutes ces personnes font... Moi, je vois les gens comme un grand livre, tu vois. Il y a ceux, malheureusement, qui vivent pas très longtemps. Donc, du coup, le livre, c'est presque une nouvelle. Petit livre avec quelques pages. Et puis, peu à peu, quand tu grandis dans la vie, toutes ces expériences que tu as, tu vas rajouter des pages.
Mm-hmm.
Ton livre va devenir un roman. Puis après, un gigantesque livre. Puis plus tu vieillis, plus ce livre va prendre de l'importance. Va prendre de la vieillesse, de la qualité.
Un manuscrit.
Voilà, un manuscrit. Les gens, c'est des livres. Et le monde autour de nous, c'est une bibliothèque. C'est comme ça que je vois les choses. Et en fait, quand tu ouvres ce livre... Tu découvres des nouvelles histoires, des histoires des fois touchantes, tristes, intéressantes. Et c'est, tous ces gens-là, ils ont quelque chose à apporter. Quand tu lis un livre, quand tu vas dans une bibliothèque, tu as toujours une chose qui t'apporte quand tu lis un livre. Les gens, c'est pareil. Ils ont toujours une expérience à t'apporter.
Si tu devais mettre un slogan pour le livre humain, ce serait quoi?
Lis et apprends. Je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Là, tu viens de me poser une question que je m'attendais pas. Profite de ta lecture. Profite de ton instant présent. Profite pour découvrir. Profite pour apprendre. Pour apprendre de ces livres. Ouais. J'ai pas de slogan. J'ai une phrase. J'ai c'est plusieurs bon. Phrases en fait.
C'est magnifique. Et donc, si on part dans ton passé, il y a tous ces livres humains qui t'ont aidé à être la version que tu es aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu as décidé de dégager pour les autres?
Qu'est-ce que j'ai décidé de dégager pour les autres? En fait, je me sens pas plus spécial qu'une autre personne. Alors ma copine me dit « Oui, t'es beaucoup spécial, t'as beaucoup de choses à offrir. » Mais moi, j'arrive pas moi-même à me visualiser. Donc...
Mm-hmm.
Mais on me dit souvent que je suis de très bon conseil. Donc ça, j'entends depuis tout petit. Et même Yann m'a dit ça, donc j'étais surpris aussi. Et j'essaye de voir les choses d'une manière neutre pour pouvoir aider les gens. J'ai toujours, voilà, quelque chose qu'on m'a dit, c'est que je suis altruiste, en fait.
Mmh.
J'essaye vraiment de... Alors, je ne suis pas une bonne poire. Ce n'est pas la même chose. Je suis altruiste, je donne un coup de main. Par contre, si on me prend comme une bonne poire, là, c'est une autre histoire. Mais en soi, j'ai toujours voulu aider les autres. Et ça me fait du bien d'aider les autres. Après, je pense que j'ai le syndrome de l'infirmière aussi, ce qui n'est pas forcément le meilleur truc.
Saint-Bernard.
Voilà, Saint-Bernard. Donc, en soi, qu'est-ce que j'ai à offrir aux autres? Alors, c'est pas qu'est-ce que j'ai à offrir, mais plutôt qu'est-ce que j'aimerais offrir aux autres.
C'est qu'est-ce que tu dégages, oui.
C'est qu'est-ce que j'aimerais...
Qu'est-ce que tu choisis de dégager et d'incarner?
Je veux incarner du bonheur. Je veux qu'en fait, alors c'est con, c'est peut-être un peu égoïste de ma part, mais j'aimerais faire un peu comme Yann, en fait. Yann, quand il rentre comme ça, il dégage du charisme. Il explose de charisme dans tous les sens. Il a de la lumière partout. Et moi, je veux un truc un peu différent. Moi, je veux juste que par ma seule présence, les gens sentent bien. Ils se disent, ah, il a encore un truc à raconter. Ah, écoutons-le, un peu comme Père Castor, tu vois.
Tu es quelqu'un d'intéressant.
Ouais, ça je sais pas si je suis quelqu'un d'intéressant, mais...
Pour moi, en tout cas, je pense que pour notre audience aussi.
Je l'espère, en tout cas. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à raconter, ça, c'est sûr. Et ouais, j'aimerais, en fait, un truc qui m'a toujours touché, c'est quand je parle avec les gens et que les gens ont les yeux qui brillent, quand ils m'écoutent. Et en fait, ça me motive à raconter encore plus de trucs.
Je te comprends tellement. C'est exactement ce que je fais. Je suis ravie, du coup, de t'avoir sur ce plateau pour le faire ensemble.
Bah, ça me fait plaisir, en fait. Parce que ça, c'est mon... Quand je vois les yeux qui brillent, c'est comme si je me disais, ah, j'ai égayé sa journée.
T'as rallumé quelque chose.
J'ai rallumé une petite flamme. En fait, voilà, une autre chose que je dis souvent, c'est chaque personne a une flamme à l'intérieur. Il y a ceux qui ont, en fait, une flamme un peu vacillante. Mm-hmm. Et il suffit d'une étincelle et la flamme se rallume.
Oui. C'est beau comme message.
J'aime beaucoup les métaphores.
Ben, c'est le storytelling, comme on dit. Hein.
Ah, ça fait partie?
Ça fait partie du storytelling, bien sûr. Oh. La métaphore est un... C'est ce que j'ai appris en français, qu'il y avait beaucoup d'oxymores, métaphores. Tous ces trucs-là, au début, je ne comprenais pas.
Oxymores, je ne sais même plus ce que c'est.
Moi non plus. Et petit à petit, en grandissant, c'est là où je découvre, en fait, où ça a son sens d'exister, mais c'est avec l'expérience de vie et en côtoyant des livres et des humains qu'on comprend l'importance de tout ça, finalement. Mais ce sont des outils qu'on utilise pour partager, finalement, des valeurs peut-être qu'on a. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre sujet qui te tient à cœur d'aborder, de partager?
Alors, ça fait un petit moment que j'ai arrêté, mais la peinture, mm-hmm. ou les voyages même.
Ouais.
Alors, pour l'instant, les voyages, je peux pas encore les faire. Je vais préparer ça pour l'année qui vient. J'ai un âgé, donc autant profiter. Les Suisses, mm-hmm. ils profitent jamais. On a toute la Suisse pour voyager, mais on n'a pas le temps parce qu'on travaille. Et maintenant que je suis à l'AI, bah, du coup, je me dis, au lieu de rester à la maison sans rien faire, au lieu de compter les points sur le plafond, je vais faire des choses qui sont utiles pour moi.
Ça fait quoi d'être à l'AI?
C'est difficile. En fait, c'est extrêmement difficile. Les débuts étaient extrêmement durs. Surtout le regard des autres, ton propre regard sur toi-même. En parler aux autres, c'est la chose la plus dure qu'il y a, parce que t'hésites, t'as envie de dire que tu es encore dans la pâtisserie, que tu es encore en train de travailler, mais tu peux pas, parce que c'est un mensonge. Et moi, je déteste le mensonge, je supporte pas ça. Et quand je dis aux autres, bah, y en a certains qui s'en foutent, parce que c'est normal. Et il y en a d'autres qu'en fait, qui te regardent avec un air, genre, ah, t'es à l'AI. Genre, t'es un déchet,
Tu profites du système.
Tu profites du système. Il y en a qui profitent, je sais, mais il y en a beaucoup aussi qui ne profitent pas, qui a vraiment des choses. Moi, le problème, c'est que j'ai ce qu'on appelle une maladie invisible. Ça ne se voit pas visuellement, mais ça se ressent. Quand on partage du temps avec moi, on voit qu'il y a des choses qui coincent. Et c'est très dur d'en parler. Si c'est, par exemple, pour rencontrer une nouvelle personne, c'est hyper dur. Moi, ça m'a pris 3 ans après c'est mon psy qui m'avait proposé, parce qu'il m'a dit que j'étais en train de me faire des burn-out à longueur de temps. Parce que je me relevais à chaque fois, mais j'avais plus d'énergie. Donc du coup, je me broyais à l'intérieur mentalement. Et il m'a dit, maintenant, tu dois faire une pause. Sinon, tu vas finir par avoir un burn-out qui va te tuer.
Ça s'appelle comment, ça?
Le quoi?
Ce que tu as, ce qu'on a détecté ou...
Alors, à la base, on a détecté une grosse dépression.
Mm-hmm.
Et en fait, ça cachait quelque chose à côté qui était beaucoup plus dur et que j'ai découvert seulement il y a 3 ans en arrière.
Mm-hmm.
Alors, je peux en parler, parce que là, maintenant, j'accepte un peu plus la situation. J'en ai parlé aussi à Yann. J'ai ce qu'on appelle une TDI en français.
Mm-hmm.
En anglais, c'est DID.
Mm-hmm.
J'ai dû faire des recherches parce qu'à l'époque, j'ai découvert ça. On m'a signalé que j'avais ça. J'allais voir un psy, on m'a dit que j'avais ça. Mais je n'ai pas eu le suivi, en fait.
Ouais.
Parce que quand j'ai demandé de l'aide... La réponse que j'ai eue, c'était que on m'a fait un plafa et je suis allé directement en asile de fous pendant un week-end et ça m'a terrifié. J'ai pas compris pourquoi. Ils m'ont mis là-bas. J'étais pas agressif, j'étais pas suicidaire. Il y avait rien. Mmh. Et du coup, ils m'ont mis là-bas et j'ai dû prouver au psy de là-bas que j'étais bien, en fait, que ça allait.
Oui.
Et pendant des années, en fait, pendant 3 ans, j'étais entre rechercher un nouveau psy et la peur d'être enfermé à nouveau.
Un traumatisme.
Ça m'a traumatisé. Je ne veux plus jamais rentrer dans un endroit pareil. Ça m'a fait peur.
Tu fais des cauchemars encore aujourd'hui?
Non, non, j'en fais pas parce que là, j'ai trouvé. Là, j'ai trouvé un psy qui me suit, qui m'a aidé. C'est depuis l'année passée. Donc là, ça va, mais j'en faisais des cauchemars avant. J'avais peur d'être enfermé, je pleurais. C'est terrifiant. Ici en Suisse, être enfermé dans un asile psychiatrique, on sait très bien que, dépendant comment ça se passe, tu peux rester toute ta vie. Mon cousin, il est comme ça, donc ça me terrifie.
Ça t'a appris quoi, cette expérience?
Pas faire confiance à tout le monde. Je sais pas. De faire attention à ce que tu dis et avec qui tu dis. De tâter le terrain en premier, de savoir avec qui tu parles. Parce qu'il y a des personnes qui sont bien intentionnées, mais il y en a d'autres qui n'en sont pas.
Et si tu ne sais pas, en fait, bah, quand tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas, tu es censé rencontrer des professionnels et on ne sait pas ce qui arrive après. Parce que justement, ouais, tu cherches de l'aide vrai. Auprès des professionnels.
Alors,
quelles seraient tes clés pour les personnes qui sont dans ces états dépressifs, en burn-out, peu importe, et qui vont chercher de l'aide ailleurs et qui, finalement, sont faibles dans leur système actuel d'action et n'ont pas tout le discernement possible pour faire attention à ci ou à ça.
J'ai une chose que je peux dire, une chose que j'ai regrettée, que j'aurais voulu faire si je pouvais revenir dans le passé. Quand tu vas dans un rendez-vous d'un psy, tu viens accompagné. Tu ne viens pas tout seul, tu as le droit. C'est ton droit en tant qu'humain.
Okay.
Tu peux demander s'ils disent que tu n'as pas le droit, ça veut dire que ça ne va pas. Parce que tu as le droit, c'est toi, c'est ton rendez-vous.
Oui.
Donc tu as le droit de dire, voilà, elle fait partie de ma famille, c'est ma femme, mon copain ou ma mère, tu as le droit. S'ils disent que ce n'est pas possible, tu peux annuler le rendez-vous, tu laisses tomber.
Et quel serait l'intérêt d'avoir une personne proche?
Une preuve. Une preuve que tu n'es pas quelqu'un qui est agressif. C'est une sécurité en fait.
Mais après, si j'étais psy, je dis, ben, peut-être tu l'as acheté, il est dans ta poche, c'est de la famille, donc... Il y a aussi tout ce discours-là.
Oui, mais la personne, elle est là comme présence. Elle n'est pas là pour parler.
OK.
Elle est là pour présence, pour faire un effet de présence. Et que même si il y a une chose qui ne va pas, je veux dire, le psy ne peut pas te mettre en internat parce que tu as une personne à côté.
Ah oui, bah ça s'est fait comme ça.
Oui, ça s'est fait comme ça, en fait. Elle m'a mis un médicament en disant que c'était un calmant, alors que c'était un antipsychotique.
Ouais.
Je ne savais pas ce qui se passait. Il y a un infirmier qui est venu, qui m'a dit tout va bien, tout va bien. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et tout à coup, je vois deux flics venir dans la pièce. Et j'ai été terrifié parce qu'ils m'ont emmené. Ils m'ont dit, est-ce que vous avez besoin d'être menotté? J'ai fait, non, mais je ne vais pas fuir. Et puis, je ne sais même pas ce qui se passe. J'étais terrifié. J'ai discuté tranquillement avec les flics et on m'a emmené là-bas. Donc, moi, je me dis, voilà, important, c'est que si tu n'as pas confiance, si tu as peur qu'il y a quelque chose et tout, viens accompagner. Toujours.
Mais il s'est passé quoi pour en arriver à ce stade-là?
Bah, justement, je ne sais pas. Elle a peut-être vu quelque chose. Moi, je suis hyperactif, donc je parle vite. Quand j'ai lu le plafond, c'était marqué que je parlais vite, que j'avais une manière vite de parler, ce qui était un trait je ne sais quoi. Et du coup, le problème, c'est que moi, je parle vite quand je suis agité, quand j'ai des traumas qui reviennent. Là, par exemple, je parle un peu plus vite parce que c'est des souvenirs qui sont difficiles. Mais voilà, et j'ai lu le plafond, il n'y avait rien de... En fait, tous les points que j'avais, c'était de mon hyperactivité.
Tu as jamais décidé d'attaquer cette injustice?
J'ai voulu, mais je ne sais pas comment faire et je n'ai pas les moyens moi-même, en fait. Mais
Et tu penses qu'il y en a plusieurs dans cette situation?
Ouais. Je pense que... Parce que y a les médecins, ils ont tout plein pouvoir, en fait. C'est ça le problème. Les psys,
l'autorité, n'est-ce pas?
Ils ont une autorité au-dessus, presque des fois au-dessus de la loi. Alors, il y a des commissions pour ça. J'ai découvert récemment qu'il y a déjà au moins des commissions au niveau des factures, par exemple.
Ouais.
Et du coup, j'ai pu enlever une injustice récente que... J'allais payer 300 balles de ma poche, que ce n'était pas possible. Je suis arrivé chez le médecin et j'ai fait alors. Et je lui dis, voilà, vous m'enlevez ça, parce que sinon, ça va mal se passer. Je vais contacter la commission, je vais vraiment tout faire. Et ça va être encore pire que si vous enlevez. Donc, vous enlevez cette facture-là, ça va pour votre poche. De toute façon, vous gagnez tellement d'argent que c'est tranquille pour vous. Et en fait, il avait fait des choses que j'avais dit que je ne pouvais pas payer. Et il a fait des tests supplémentaires. Et du coup, c'était de ma poche que je devais payer.
Ah ouais.
Voilà.
Mais sans ton approbation?
Sans mon approbation, parce qu'il ne m'a même pas demandé. Il n'a même pas téléphoné alors qu'il est censé le faire.
C'est ça. Hein?
Ouais. Et donc, du coup, j'ai...
Tu dénonces quoi aujourd'hui?
Alors, à ce sujet-là, par rapport à ce médecin, enfin, par rapport au médecin en général,
par rapport à l'instance médicale.
L'instance médicale, on doit faire des lois qui protègent plus les patients. On doit faire des lois qui les sécurisent, qu'ils se sentent mieux et qui ne se sentent pas juste comme un patient, comme un numéro. Et ça, ce n'est pas que pour le milieu médical, mais pour tout, toutes les autres choses administratives. Parce que quand tu fais un truc administratif, tu as un numéro dans un papier. Les gens sont tellement habitués de voir des fiches de dossiers qui passent qu'ils ont perdu leur humanité. Et ça c'est un truc que j'aime pas du tout en Suisse. C'est un truc que je désapprouve. Et c'est aussi pour ça, à l'époque, que je voulais fuir la Suisse parce que j'en pouvais plus. Au Brésil, ils sont plus humains. Ouais. Dans les autres pays que tout le monde dit qu'ils sont pauvres ou en voie d'industrialisation, ils ont plus d'humanité que les gens qui sont dans le premier monde.
Si tu veux être président de la Suisse, tu changerais quoi ?
Alors, je changerais déjà certaines lois, mais je demanderais vraiment au peuple, comme d'hab, parce que, comment dire, c'est le peuple qui fait le pays, c'est pas les présidents. Moi, j'aimerais bien changer des choses, je proposerais des choses importantes, après je sais pas quoi. Je sais en tout cas que, principalement, j'aimerais que les gens aient tous des droits égaux, plutôt pas égaux, équitables.
Qu'est-ce que c'est que pour toi, équité ?
L'équité, c'est de prendre en compte les différences des gens pour pouvoir leur donner ce qui leur suffit, ce qu'ils ont besoin. Alors qu'être égaux, c'est d'essayer d'équilibrer les choses sans prendre leurs besoins en compte.
Comment on peut prendre le besoin des gens si les gens ne sont pas au courant de leurs besoins et qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer?
Alors là, tu me poses une colle. Je ne sais pas du tout.
C'est vraiment une question que je me pose depuis longtemps. Et comment... je me suis dit, mais même moi, des fois, je ne suis pas claire avec ce que j'ai besoin et... En général, ça revient où il y a les besoins fondamentaux de sécurité, les besoins d'appartenance. La pyramide de Maslow est bien présente,
oui,
toujours.
Oui, alors oui. Moi, je l'utilise beaucoup pour pouvoir savoir ce que j'ai comme besoin. Mm-hmm. Et en soi, moi, je me base sur plusieurs choses pour savoir nos besoins. C'est, je me base sur l'entourage. Je pose des questions sur les gens de confiance. Mm-hmm. Et... je me base aussi sur mon ressenti, mon expérience personnelle. Mmh. Et puis, alors, je sais que c'est pas la meilleure des solutions à faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, et puis c'est pas vraiment le meilleur truc, mais des fois, je regarde sur Internet un peu pour savoir les avis divergents. Mmh. Et en gros, à partir de ça, je prends mon expérience, je prends l'expérience d'à côté, et l'expérience un peu du monde, oui, pour pouvoir avoir un avis général.
Patchwork.
Pour savoir un peu mes besoins à moi.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais besoin ?
De réaliser mes rêves.
Qui sont de monter à cette triporteur.
Qui est déjà le triporteur, la pâtisserie et le fait de voyager accompagné. En fait, en soi, depuis le début de l'année, j'ai rencontré une personne merveilleuse qui me complète totalement.
C'est beau.
J'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai vécu beaucoup, j'ai eu beaucoup de relations. Les gens disent tout le temps... Quand tu as 29 relations, ah, tu as eu beaucoup, tu es un Casanova. Moi, je voyais ça autrement, c'est des échecs parce que tout simplement, je n'ai pas réussi à rester avec la personne. Mais de tous ces échecs-là, j'ai appris énormément. J'ai appris comment aimer, j'ai appris comment comprendre, j'ai appris comment écouter. Parce que écouter et entendre, c'est pas la même chose. Écouter, c'est vraiment prendre en compte ce que la personne a à dire.
Est-ce que écouter suffit ?
Écouter suffit beaucoup, mais pas totalement. C'est
ce
une part.
Manque à la recette.
La confiance.
Comment avoir de la confiance ?
Échanger, communication. La plupart des couples, ils ne fonctionnent pas parce qu'ils n'ont pas de communication. Quand il y a eu le Covid, les gens se sont retrouvés à la maison, ils ne se connaissaient pas du tout parce qu'ils ne passaient pas du temps ensemble. Du coup, il y a eu beaucoup de divorces. La base, la relation, désolé, j'ai eu un lapsus pour le coup. La raison pour laquelle mon couple a duré 7 ans, c'est que j'ai eu de la communication tout le temps. À chaque fois qu'il y avait un souci, on parlait. À chaque fois que quelque chose n'allait pas, on parlait. On trouvait des solutions. Faut pas juste, il pue des pieds, bah du coup, je vais casser avec lui parce qu'il pue des pieds. Non, bah tu vas regarder un médecin, tu vas regarder ce que tu peux faire, ou à la limite, tu mets des chaussettes qui insonorisent ou qui enlèvent l'odeur, et puis voilà. Donc, il y a toujours des solutions pour tout.
Donc, tu es quelqu'un qui est orienté solution depuis toujours, ou c'est venu...
C'est depuis toujours, parce que la vie est difficile. La vie est très dure, même quand on est jeune. Les gens ne pensent pas au fait que les enfants aussi ont des préoccupations. Mais il y en a. Et on veut toujours se surpasser quand on est gosse. Et moi, je ne suis pas riche. Je ne viens pas d'une famille riche. Ma mère a toujours été une bosseuse. Et elle a toujours donné ce qu'elle pouvait. Et des fois, elle ne trouvait pas de solution. Et on arrivait sur des moments où on arrivait sur une rue où il y avait sans issue. quand en fait, tu n'as pas l'habitude de réfléchir tout le temps à des solutions, bah, du coup, les trucs, tu les prends en pleine face. Et moi, en fait, alors, c'est un petit problème que j'ai, c'est que j'essaie d'avoir le contrôle le plus total de ma vie. Parce que justement, si on laisse les trucs au hasard, malheureusement, ça vient. Donc, moi, je suis toujours à la recherche de solutions. Quand des gens me demandent de l'aide, j'essaie de trouver des solutions en basant sur leur vie, sur leur entourage.
Sans te perdre, toi, dans l'histoire.
J'apprends actuellement à ne pas me perdre, moi. C'est ma copine actuelle qui me dit tout le temps. Elle me dit... Attends, j'ai un blanc. Elle me dit ça tout le temps, je le dis à chaque fois, mais pourquoi j'ai un blanc là tout de suite?
Peut-être revenir après.
Ouais, je crois qu'elle dit ne te perds pas toi-même ou ne... Ne t'oublie pas, voilà. Elle me dit ne t'oublie pas. Ça, c'est une phrase qui m'a résonné en moi. C'est ne t'oublie plus, ne t'oublie pas. Et le problème, c'est que pendant des années, j'aidais tout le monde, oui. Puis j'oubliais moi-même.
Tu sais pourquoi tu faisais ça?
Je pense que je cherchais un peu quand même d'approbation. Je voulais aider quelqu'un aussi. Et en fait, il y avait plusieurs choses. Mais une chose qui revient souvent, c'est je veux pas que les gens soient dans la même situation que moi. Je veux qu'ils transcendent ça, qu'ils aillent plus loin. Et j'ai déjà vécu beaucoup d'horreurs dans ma vie, beaucoup de difficultés. Si j'ai la possibilité de faire qu'ils sautent cette difficulté, qu'ils passent au-dessus comme un tremplin, ben je le ferai.
Et tu es au courant que tu ne peux pas faire ça?
Alors, je peux d'une certaine manière, je peux guider. Maintenant, j'ai compris que je peux guider et que c'est le choix de la personne de le faire ou pas. Mm-hmm. Mais avant, je pensais que, en disant ouais et tout, puis le problème, c'est que je fais comme un papa, en fait. Ah. Donc, c'est pas vraiment la meilleure des solutions.
C'était quoi l'image du père que tu as eu?
Du mon père à moi? Mm-hmm. Au premier abord, je le voyais comme un super-héros. Mm-hmm. Malheureusement, je ne fais pas partie d'une famille parfaite. L'image que j'ai eue a été détruite très tôt. Et j'ai eu vraiment une image que je voulais pas répéter, en fait. Et je me suis dit, un jour, si j'ai la possibilité d'avoir des enfants, je veux être différent. Je veux pas montrer cette image-là à quiconque. Parce que déjà, pour un enfant, c'est dur. C'est dur d'être rejeté par le père, c'est dur d'avoir un père qui, qui fait des choses illégales, c'est dur de voir un père qui s'en fiche de l'enfant. Et si tu veux pas avoir d'enfant, tu n'en as pas. Mais tu vas pas... Après, je suis content qu'il m'ait eu.
Je suis contente qu'il t'ait eu aussi.
Ah, merci. Je l'en veux pas, en fait. Je pense qu'il n'était pas prêt, c'est tout. Et puis, si je ne l'avais pas eu, j'aurais pas eu toute cette expérience de vie. Et j'aurais pas rencontré ma copine actuelle. Tout à son temps. Faut pas être pressé. Tout à son temps.
Et quelle est l'image de la maman que tu as eue?
Difficile. Très difficile. Très aimante, parano, des fois, parce que j'ai eu aussi des passés difficiles, des abus, et elle est devenue très parano à cause de ça. Elle était perdue parce qu'elle était seule, il n'y avait personne pour l'aider, donc elle a dû devenir une femme forte très vite. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les mamans comme toi, les mamans célibataires, parce que vous devez retirer de l'énergie là où vous n'en avez peut-être pas.
Continue.
Il n'y a pas de souci, désolé. Si tu veux du temps, il n'y a pas de souci.
Non.
Et ma mère a toujours été la femme forte, la femme implacable. Et elle m'a éduqué, alors, selon l'ancien temps, donc le côté gentleman, bisous sur la main, ouvrir la porte. J'ai toujours cru que c'était gnangnan, mais ma copine actuelle adore ça. Donc, je suis,
oui, on adore ça.
Je ne suis jamais tombé sur des filles qui aimaient ça avant. Donc,
ah, wow.
Du coup, elle est tout le temps comme ça, avec les yeux qui brillent. Donc, je suis vraiment content parce que c'est moi-même, en fait. J'ai pas besoin de faire plus. Oui. Mais par rapport à ma mère, voilà. Donc, elle a toujours été forte. Alors, à certains moments, elle tombait un peu et puis elle était mal. Moi, je pouvais pas l'aider parce que je suis tombé en dépression en cours de route. Donc, j'ai un peu raté ma vie à ce moment-là. Mais seulement à ce moment-là, parce que là, maintenant, je suis en train de redémarrer tout. Je sais le regard que tu m'as sorti. Donc, j'étais déjà en train de préparer le truc. Et là, actuellement, c'est elle qui a besoin de moi. Elle me demande souvent conseil. Qu'est-ce que je fais pour le job? Est-ce que je vais changer? Est-ce que je me sens pas super bien?
Est-ce que ça te fait du bien d'avoir, de pouvoir l'aider ou de choisir de l'aider?
Ouais. Ouais, parce que je peux lui donner le retour qu'elle m'a donné. Même si c'est... Moi, je sens minuscule, ce retour. Mais quand elle est heureuse, quand elle me dit « Ouais, j'ai trouvé un nouveau job, c'est trop cool et tout. » Moi, je suis super content. Et on va peut-être habiter même au même endroit parce qu'elle est tombée amoureuse de Léon, elle a dit qu'elle est en train de regarder pour l'hôpital. Donc, on va voir comment ça se passe. Puis, si elle habite à côté de moi, mais que par contre, elle travaille ailleurs, ça va. Actuellement, on s'est rabiboché et ça fait du bien. Parce qu'autour, j'ai que elle qui reste. J'ai plus de famille. Donc, c'est la seule famille qui me reste.
Et t'es en train de créer la tienne?
Et je suis en train de créer la mienne. C'est exactement ça que j'allais... Merci, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Je suis en train de créer la mienne et je sens enfin revivre. Je me sens vivant actuellement. C'est pour ça que je suis venu dans un très bon état d'esprit.
Merci en tout cas pour tout ce que tu as partagé. Pour qui tu es, et c'est pas évident. Je pleure à ta place, en fait.
C'est très émotif, justement. Je sais pas comment réagir, en fait. Parce que moi, quand une fille pleure, en fait, ça me fait un truc. Et puis, je me dis, il faut que je la donne des câlins ou des trucs comme ça. Tu veux un câlin?
Oui.
Ça tire un peu au niveau des jambes.
Ben, merci de me faire pleurer, sûrement de faire pleurer d'autres personnes qui nous regardent actuellement. Parce que c'est des choses qu'on ne dit pas assez. Il y a beaucoup, des fois, mettre quelqu'un sous spotlight, ça ne veut pas dire juste mettre les belles parties de sa vie sous spotlight. C'est un tout qui fait qui on est aujourd'hui. Et c'est toute l'idée d'être le mouton noir, mais pas le mouton noir dans le sens où on est rejeté, refusé ou quoi que ce soit. C'est de se dire, on n'a pas pris le même chemin que les autres, mais par contre, on a aussi des rêves et qu'on aimerait atteindre ces rêves. Et s'en mettre plein les yeux, plein le cœur, plein partout.
Je voulais rajouter un truc pour le mouton noir. Mm-hmm. N'oubliez pas que le pelage ne fait pas tout et qu'on peut aussi muer. Donc le pelage qui est noir peut devenir gris puis blanc.
Puis finalement, noir c'est cool aussi, blanc c'est cool aussi.
Ah, moi j'aime bien le noir, moi je porte beaucoup du noir.
Non, mais c'est vrai que les couleurs peuvent changer et il y a des palettes de couleurs actuellement énormes. Et il y a de la place pour tout le monde.
Ah oui, ça c'est clair.
Est-ce qu'il y a une dernière chose? Ainsi, je devais te poser...
Le problème, c'est qu'on parle de tout, donc, et on n'arrive jamais à rester sur le même sujet.
Ah, c'est bon, hein? C'est l'idée de l'interview, et ouais, c'est pour ça que c'est dans le flow.
Il va falloir qu'on fasse plein, hein? En face, les gens, ils aiment. Hein?
Pourquoi tu conseillerais à quelqu'un d'être à ta place?
À ma place, là?
Oui, comme interviewé.
En soi, c'est une expérience très intéressante. Ici, en tout cas ici, hein, ouais. Je vais bien spécifier ici, moi, je ne me suis pas senti stressé. Je me suis senti alors scruté, ça c'est sûr. Je me suis senti à l'aise. C'est quand même intéressant de voir des gens qui s'intéressent à nous. En fait, je pense que quelqu'un qui viendrait à notre place, alors en soi, il serait peut-être un peu inquiet, puis machin et tout, mais au fur et à mesure, ça va débloquer. Et en fait, le fait qu'on s'intéresse à nous, ça nous fait du bien. Et après, on a toujours des trucs à raconter. Et puis, moi qui suis là maintenant, toi, tu seras à ma place après. Et du coup, moi, je verrai ce que toi, tu as à dire. Donc, du coup, j'aurai aussi gagné quelque chose. Donc, c'est une expérience très intéressante.
Génial. Et puis, j'ai une dernière question. C'est si tu avais 3 messages à partager au monde, ce serait lesquels?
Alors, j'ai un gros cliché. Mm-hmm. Ne laissez pas tomber vos rêves. Vous pouvez les laisser en pause, vous pouvez les suspendre un moment, mais laissez toujours de côté. Dès qu'une opportunité arrive, prenez-la direct. Parce qu'il y a un truc que j'ai regretté dans ma vie, c'est que beaucoup de fois, j'ai eu des opportunités. Par peur de l'échec, etc., j'ai laissé tomber. Or, si tu ne fais pas les choses, de toute façon, tu as un échec. Donc, autant essayer, tu n'as rien à perdre. Ça, c'est le premier truc. Donc, ne laisse pas tomber tes rêves. T'as envie de faire quelque chose, motive-toi. Bouge-toi tes fesses, va faire des recherches, t'as des trucs sur Internet, t'as des livres à la bibliothèque, t'as tout ce qui te convient, t'as même des gens pour donner des conseils, mais prends seulement les conseils de ceux que tu as confiance. L'autre phrase, c'est relève-toi. Même si tu penses que tout est fini, relève-toi. Parce qu'en fait, quand tu es dans le mal, tu as le brouillard dans les yeux. Tout ce que tu vois est négatif automatiquement. Mais en fait, tu as des solutions. Tu as toujours des solutions. Les solutions, tu ne les vois pas sur le moment parce que tu es déprimé, parce que tu peux avoir peut-être un entourage qui te pourrit la vie, mais tu as des solutions. Tu as toujours des solutions. Je me suis relevé de... Alors, pour l'instant, je n'ai pas dit tous les trucs, mais je me suis relevé de situations qui auraient pu finir ma vie plusieurs fois. Je me suis relevé de situations qui m'ont broyé l'esprit. Et je me suis relevé, je suis là. Donc, si moi, je suis là, vous êtes plutôt là aussi. Et je veux dire, il y a ça. Et puis, le dernier truc... j'ai eu un blanc, en fait. J'ai pas... Attends, c'était quoi le dernier truc ?
Trois, déjà.
J'ai sorti trois.
Oui. Premier, c'est croyez en vos rêves et saisissez les opportunités qui s'approchent de vos rêves. Deuxième, c'est entourez-vous de personnes de confiance, écoutez les avis, demandez de l'aide, mais avec les gens de confiance, donc alignés à vos valeurs.
Ah tiens, j'avais pris ça dans le premier.
Ok. Et troisième, ben, ce que tu viens de dire, rappelle-moi juste, c'est
toujours se relever, en fait.
Voilà, c'est ça.
Toujours se relever. Et j'avais un autre truc qui était très important, mais je l'ai oublié. J'aurais dû le noter. C'est ça, l'hyperactivité. C'est terrible.
C'est que ça ne devait pas être là, à ce moment-là.
Non, c'était important. Oh. C'était très important, parce que ça, c'est un truc qu'il faut dire. Mais bon, c'est pas grave. Je le dirai peut-être à la prochaine, si on a...
Tu peux le commenter sous ta vidéo YouTube, après.
Ah, je commenterai, alors.
Avec grand plaisir. Ce sera un
merci,
honneur.
Du coup.
Alors, merci d'avoir fait cet échange. Et puis, ben... Où est-ce qu'on peut te contacter et te suivre
alors,
et discuter avec toi, finalement?
Alors, je ne vais pas passer mon WhatsApp, sinon ça va, ça va filer, même si j'aime bien, en fait, discuter. Où est-ce qu'on peut me trouver? Alors, on peut me trouver, alors je te passerai après pour mettre dans la description. Alors, pour l'instant, c'est un peu suspendu. Mais en gros, comme je fais de la peinture, j'ai un Instagram de peinture qui s'appelle Miroir de l'âme.
Miroir de l'âme.
Wow. Ouais, parce qu'en fait, j'ai toujours dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. C'était un vieux pseudo, mais qui me touche particulièrement. Sauf que miroir avec un R, parce que je crois que j'ai fait une erreur de faute de frappe. je sais que mais je mettrai dans la description. Mais en fait, je mets toutes mes peintures là-bas. Et puis, si vous voulez discuter, n'hésitez pas. On peut faire des vocales. Après, je peux passer peut-être mon Discord et puis on discute. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion.
Donc, si vous voulez... Et vous avez été touché par l'histoire de Maëlle, eh ben, contactez-le par Instagram, Miroir de l'âme, et tout sera affiché en dessous dans les descriptions. Donc, merci beaucoup, Maëlle, d'avoir partagé cet instant.
Merci à toi.
Incroyable.
Et puis, désolé de t'avoir fait pleurer. Hein.
Ah non, c'est une bénédiction de faire pleurer les gens. C'est ce que j'ai appris aussi. Et...
Ça dépend dans quelle situation.
C'est toujours une bénédiction de pouvoir libérer une émotion. De pouvoir libérer entièrement pour pouvoir réinjecter une nouveauté. C'est comme ça que je vis et je te remercie
d'accord.
De m'avoir fait résonner des choses qui touchent mon cœur et mon esprit.
Tu es une belle personne, tu sais.
Merci. Et toi aussi, je te renvoie le miroir.
Le miroir, oui.
Alors, si vous avez apprécié, likez et suivez-nous pour de prochaines aventures hollywoodiennes. Merci Maëlle.
Merci.
Bonne journée à tous. Ciao. Bonjour.